Chapitre 3. Le roi écarlate et la tour sombre. 1. La route autant que le récit ont été longs, vous ne trouvez pas? Le voyage a été long, et le prix à payer élevé. Mais les grandes choses ne se gagnent pas facilement. Un long récit comme une haute tour se construit une pierre à la fois. À présent néanmoins, à mesure qu'approche la fin, regardez avec attention ces deux voyageurs, cheminant vers nous avec grand soin. L'homme le plus âgé, celui au visage ridé et tanné par le soleil, et le pistolet à la hanche, tire le chariot qu'ils appellent « Ophat II ». Le plus jeune, celui avec cet énorme bloc de feuilles à dessin calé sous les selles, qui lui donne des airs d'étudiant des temps anciens, marche à ses côtés. Ils escaladent une colline en pente douce qui ressemble à s'y méprendre aux centaines de collines qu'ils ont déjà gravies. La route qu'ils suivent est envahie par les herbes folles et jalonnée de part et d'autre de murs de pierre en ruine. Des roses sauvages poussent à profusion au milieu des gravats, formant un ensemble charmant. Dans le vaste paysage parsemé de buissons qui s'étend à perte de vue au-delà de ces murs, surgissent çà et là d'étranges édifices de pierre. Certains rappellent des châteaux effondrés, d'autres ont des airs d'obélisques égyptiens, quelques-uns encore sont de toute évidence des anneaux de parole, de ceux dans lesquels on convoque les démons. Plus loin, des ruines de menhirs et de dolmens font penser à Stonehenge. On s'attendrait presque à voir apparaître des druides en robe à capuche, assemblés au centre du grand cercle, interrogeant les runes. Pourtant, les premiers gardiens de ces monuments, précurseurs des grands monuments, ont tous disparu. Seuls de petits troupeaux de bannocks passaient là où autrefois on priait. Quelle importance ! Ce ne sont pas de vieilles ruines que nous sommes venus contempler à la fin de notre long voyage. Mais ce vieux pistolero tirant les poignets de son chariot. Nous nous tenons au sommet de cette colline, à l'attendre, tandis qu'il monte vers nous. Il vient. Il avance. Plus impitoyable que jamais, cet homme apprend toujours le langage de la terre, du moins en partie, et les us du pays. Il est toujours le genre d'homme à redresser les tableaux dans des chambres d'hôtels inconnus. Beaucoup de choses en lui ont changé, mais pas ça. Il gravit la colline tellement près de nous à présent qu'on peut sentir l'arôme acide de sa sueur. Il lève les yeux, lançant ce regard absent et machinal à chaque sommet de colline, devant, puis de chaque côté. Inspecter toujours le paysage alentour, c'était un des mots d'ordre de Corte, et le dernier de ses élèves ne l'a toujours pas oublié. Il regarde sans la moindre lueur d'intérêt, baisse les yeux et s'arrête. Au bout de quelques secondes passées à scruter les pavés brisés et infestés de mauvaises herbes de la route, il lève de nouveau le regard, plus lentement cette fois-ci. Beaucoup plus lentement, comme effrayé par ce qu'il croit avoir aperçu. Et c'est ici qu'il nous faut le rejoindre, sombrer en lui, même si ce pauvre bougre qui se croit écrivain serait à présent bien en peine d'inspecter le paysage du cœur de Roland dans un tel moment, quand apparaît enfin à l'horizon le seul et unique but de toute son existence. Il est de ces moments au-delà même de l'imagination. 2. Roland leva rapidement les yeux en atteignant le haut de la colline, non pas par crainte du moindre problème, mais parce que cette habitude était trop bien ancrée en lui pour l'abandonner aujourd'hui. Inspectez toujours le paysage alentour, leur disait Corte, leur martelant cette consigne depuis qu'ils étaient babés, ou presque. Il jeta un œil à la route en contrebas. Il devenait de plus en plus difficile de slalomer entre les roses sans en écraser aucune, bien qu'il y soit parvenu jusqu'ici. Et c'est alors, bien tardivement, qu'il prit conscience de ce qu'il avait vu.
« Ce que tu as cru voir,
se dit Roland à lui-même, en scrutant toujours la route. C'est sans doute une autre de ces ruines étranges que nous croisons depuis que nous nous sommes remis en route. Mais alors, Roland lui-même savait qu'il n'en était rien. Ce qu'il venait de voir ne se situait pas sur le côté de la route de la tour, mais en plein milieu. Il releva les yeux, entendit craquer ses vertèbres comme les gonds d'une vieille porte, et là encore, à quelques kilomètres, mais visible à l'horizon, aussi réel que toutes ces roses, se dressait le sommet de la tour sombre. Celle-là même qu'il avait vue dans ses milliers de rêves, il la voyait à présent de ses yeux. À 50 ou 60 mètres devant eux, la route montait de nouveau à flanc de colline, une colline plus haute, ornée d'un ancien anneau de parole, bordé de lierres et de chèvrefeuilles d'un côté, et d'un bosquet d'arbres de fer de l'autre. Au centre de cet horizon proche, la forme noire se dressait, obscurcissant une petite portion de ciel bleu. Patrick vint s'immobiliser aux côtés de Roland et émit un de ces bruits de klaxon. « Tu la vois ?» demanda Roland d'une voix rauque et brisée par la stupéfaction. Et alors, sans laisser à Patrick le temps de répondre, le pistolero tendit la main vers ce que le jeune homme portait autour du cou. Car pour finir, les jumelles avaient été le seul élément du Guna de Mordred qu'ils avaient estimé digne d'intérêt. « Passe-les-moi, Pat. » Patrick les lui tendit volontiers. Roland les porta à ses yeux, procéda à un infime réglage, puis retint son souffle en voyant surgir le sommet de la tour dans son champ de vision, comme s'il pouvait la toucher. Et au-delà de l'horizon, est-ce qu'on la voyait entièrement? Quelle portion observait-il en ce moment même? 5 mètres? Peut-être même 10 ou 15? Il n'en savait rien. Mais il apercevait au moins 3 des meurtrières qui escaladaient le corps de la tour en spirale, et il distinguait la fenêtre en oriel, tout en haut, avec toutes ses couleurs qui se reflétaient dans le soleil printanier, et le cœur noir qui semblait le foudroyer à travers les jumelles, comme l'œil même du Vahadash. Patrick couina et fit signe à Roland de lui prêter les jumelles. Il voulait regarder par lui-même, et Roland les lui tendit sans broncher. Il se sentait la tête qui tournait, il était ailleurs. Il lui revint à l'esprit qu'il s'était parfois senti dans cet état dans les semaines qui avaient précédé son combat avec Kort, comme s'il était un rêve ou un rayon de lune. Il avait senti un bouleversement imminent, un vaste changement, et c'était ce qu'il ressentait en cet instant. « Le voilà là-bas. » songea-t-il. « Le voilà mon destin, la fin de la route de ma vie. Et pourtant mon cœur bat toujours, un peu plus vite qu'auparavant à dire vrai. Mon sang court toujours dans mes veines, et nul doute que quand je me pencherai pour reprendre les poignets de ce maudit chariot, mon dos grognera toujours et je lâcherai peut-être un petit paix. Rien n'a changé du tout. » Il attendit la déception que cette conclusion ne manquerait pas de provoquer, l'appel d'air. Il ne vint pas. Il ressentit à la place une vivacité étrange et galopante qui naquit dans sa tête et se répandit dans ses muscles. Pour la première fois depuis qu'ils étaient repartis en milieu de matinée, le souvenir d'Othé et de Susanna quitta son esprit. Il se sentait libre. Patrick abaissa les jumelles. Lorsqu'il se tourna vers Roland, l'excitation se lisait sur son visage. Il tendit la main en direction du pouce noir qui se dressait au-delà de l'horizon et poussa un petit cri. « Oui, » acquiesça Roland. « Un jour, dans un monde quelconque, une version de toi la peindra, ainsi que l'âme Ray, le destrier d'Arthur l'aîné. Je le sais, car je l'ai vu de mes yeux. » Et pour l'heure, c'est là qu'il nous faut aller. Patrick couina de nouveau, puis son visage se rembrunit. Il porta les mains à ses tempes et secoua sa tête d'avant en arrière, comme quelqu'un pris d'une terrible migraine. Oui, moi aussi j'ai peur, mais on ne peut pas l'empêcher. Je dois y aller. Préfères-tu rester ici, Patrick? Rester ici à m'attendre? Si tel est ton désir, je t'y autorise. » Patrick secoua instantanément la tête. Et juste au cas où Roland n'aurait pas saisi, le jeune muet lui saisit fermement le bras. Sa main droite, celle avec laquelle il dessinait, avait une poigne de fer. Roland hocha la tête, tenta même un sourire. « Oui, ça me va. Reste avec moi aussi longtemps que tu le voudras. Tant que tu comprends bien qu'à la fin, je devrais y aller seul. » 3. Maintenant, après chaque déclivité, à chaque colline qu'il franchissait, la tour paraissait plus proche. Les fenêtres s'enroulant autour de sa large circonférence apparaissaient en plus grand nombre. Roland apercevait deux poteaux métalliques saillants du sommet. Les nuages qui dérivaient le long des sentiers des deux rayons en état de marche semblaient s'élever comme des panaches de fumée du sommet de la tour même, formant un grand X au milieu du ciel. Les voix gagnaient en puissance, et Roland se rendit compte qu'elles chantaient les noms des mondes, de tous les mondes. Il ne savait pas d'où lui venait cette intuition, pourtant elle était indiscutable. Cette légèreté de l'être continua de l'habiter. Alors qu'ils franchissaient la crête d'une colline avec à leur gauche de grands hommes de pierre marchant vers le nord, ce qu'il restait de leur visage, peint d'une matière rouge vif qui rappelait du sang, leur lançait des regards furieux. Roland finit par dire à Patrick de grimper à bord du chariot. Patrick eut l'air surpris. Il se mit à pousser une série de petits cris dont Roland supposa qu'il signifiait « Mais tu n'es pas fatigué ?»«
Si, mais j'ai besoin d'un ancrage. » Sinon, je suis capable de partir en courant vers cette tour là-bas, même si une partie de moi sait que ce serait idiot. Et si ce n'est pas l'épuisement total qui me fait exploser le cœur, le roi rouge sera ravi de me décapiter avec un de ses jouets. Grimpe, Patrick. »
Patrick s'exécuta. Il s'assit, penché vers l'avant, les jumelles collées aux yeux. 4. 3 heures plus tard, ils se retrouvèrent au pied d'une colline nettement plus abrupte. Et le cœur de Roland lui dicta que c'était la dernière. Quand Canoré se trouvait juste derrière. Au sommet, sur la droite, se détachait un cairn de rocher qui avait dû être une petite pyramide. Ce qu'il en restait mesurait environ 10 mètres de haut. Des roses avaient poussé à sa base, formant un anneau rouge écarlate. Roland l'établit comme point de fuite et se mit à escalader lentement la colline en tirant le chariot par les poignets. Tandis qu'il grimpait, le sommet de la tour réapparut puis s'allongea. Chaque pas élargissait la vision. Il voyait à présent les balcons avec leurs rambardes à hauteur de la taille. Nul besoin des jumelles, l'air était d'une transparence surnaturelle. Il évalua la distance le séparant encore de la tour à 7 kilomètres tout au plus, peut-être même 5. Les niveaux successifs apparaissaient sous ses yeux qui n'y croyaient pas encore tout à fait. À quelques mètres du sommet, alors que la pyramide effondrée ne se trouvait plus qu'à une 20aine de pas sur la droite, Roland s'arrêta. Se pencha et posa les poignets du chariot sur la route pour la dernière fois. Chaque nerf dans son corps tremblait, anticipant le danger.
« Patrick, descends. »
Patrick mit pied à terre en poussant un gémissement, son visage anxieux tourné vers Roland. Le pistolero secoua la tête.
« Je ne peux pas te dire pourquoi pour l'instant, sauf qu'on est en danger. »
Les voix formaient un grand cœur, mais l'air autour d'eux était immobile. Pas un oiseau ne traversait le ciel. Aucun gazouillis ne venait troubler le silence. Ils avaient laissé derrière eux les Bannocks vagabonds. Une brise légère murmurait autour d'eux et les brins d'herbe ondulaient doucement. Les roses dodelinaient de leur tête carmin. Ils avancèrent tous deux côte à côte et, chemin faisant, Rollint sentit un frôlement timide contre les deux doigts de sa main droite. Il se tourna vers Patrick. Le garçon lui rendit un regard angoissé, accompagné d'un pauvre sourire. Rollint lui prit la main, et c'est ainsi qu'ils gravirent les derniers mètres de cette colline. En contrebas apparut un gigantesque manteau rouge qui s'étendait jusqu'à l'horizon, quelle que fût la direction où portait leur regard. La route tranchait dans le vif, ligne blanche poussiéreuse, parfaitement rectiligne, d'environ 3 mètres de large. Au milieu du champ de roses se dressait la tour noire de Suie, exactement telle qu'il se la représentait en rêve. Ses fenêtres scintillaient à la lumière du soleil. Là, la route se scindait en deux, dessinant un cercle blanc parfait autour de la base de l'édifice, pour reprendre de l'autre côté, en direction de ce que Rollint identifia comme le plein est, et non plus le sud-est. Une autre route partait à angle droit du pied de la tour, au nord et au sud, s'il avait raison de croire que les points cardinaux étaient rétablis. D'en haut, la tour sombre devait ressembler au cœur noir d'un viseur de carabine écarlate. Mais avant que Rollint ait pu poursuivre, un hurlement de démence leur arriva, porté par la brise, bizarrement intact malgré la distance.
« C'est le rayon qui l'amène jusqu'à nous, » se dit Rollint, « ainsi que les roses. »«
Pistolero !» tonnait le roi cramoisi. « L'heure est venue pour toi de mourir !»
Il y eut un sifflement, d'abord faible, puis allant croissant, tranchant le champ combiné de la tour et des roses comme le diamant le plus précis et le plus affûté qu'on ait vu de mémoire d'homme. Patrick resta pétrifié, à fixer bêtement la tour. Il se serait fait arracher de ses bottes sans l'intervention de Rollint, dont les réflexes étaient plus prompts que jamais. Il tira le jeune muet par la main jusque derrière le tas de pierres de la pyramide. D'autres pierres se cachaient dans les patiences et les stramoines hautes. Ils trébuchèrent sur l'une d'entre elles et s'affalèrent. Rollint sentit un coin acéré se planter dans ses côtes. Le sifflement continua de prendre de l'ampleur, se muant en gémissement assourdissant. Rollint vit un éclair métallique voler dans l'air, un vif d'argent. Il alla percuter le chariot et explosa, éparpillant leur guna aux 4 vents. Une bonne partie retomba sur la route. Les boîtes de conserve roulèrent et rebondirent, certaines éclatèrent dans la poussière. Puis, ils entendirent un rire haut-perché qui fit grincer les dents de Rollint. À ses côtés, Patrick s'était couvert les oreilles de ses paumes. La folie de ce rire était presque insupportable à entendre.
« Montre-toi !» l'exhortait la voix démente et lointaine entre 2 éclats de rire. « Montre-toi et viens donc jouer, Rollint. Viens à moi. Viens à ta tour. Après toutes ces années, ne veux-tu pas venir ?»
Patrick le considéra d'un regard effrayé et désespéré. Il serrait son bloc de feuilles contre sa poitrine comme un bouclier. Rollint jeta un regard prudent au-delà de la pyramide. Et là, sur un balcon au 2e niveau en partant de la base de la tour, il vit exactement ce que représentait le tableau dans le bureau de Saïseir. Une tache rouge et 3 petites taches blanches. Un visage et 2 mains levées. Seulement, il ne s'agissait pas d'un tableau, et l'une des mains eut un geste vif, celui de lancer quelque chose, bientôt suivi d'un autre de ses gémissements infernaux. Rollint roula en arrière, se mettant à nouveau à couvert de la pyramide. Après un silence qui lui parut interminable, un 2e vif d'argent percuta l'autre côté de la pyramide, puis explosa. La déflagration les projeta face contre terre. Patrick poussa un hurlement de terreur. Des rochers volèrent de toutes parts. Certains atterrirent sur la route, mais Rollint ne vit pas un seul éclat toucher une rose. Le garçon se remit à genoux en rampant, et il se serait enfui en courant, sans doute par la route, si Rollint ne l'avait pas rattrapé par le col de son manteau de peau, le plaquant de nouveau au sol.
On est à l'abri ici, murmura-t-il à l'intention du garçon. Regarde.
Il plongea la main dans un trou que venait de mettre au jour la chute de pierre et en cogna l'intérieur avec ses phalanges, produisant un écho métallique qui lui fit découvrir les dents en un rictus amer.
De l'acier. Oui, là. Il peut bien frapper avec une douzaine de ces sales bêtes volantes. Ça ne le mettra pas par terre. Tout ce qu'il réussira à faire, c'est à faire voltiger les cailloux et à découvrir la couche située dessous. Tu intuites ?
Et je ne crois pas qu'il ait l'intention de gâcher ses munitions. Il ne doit pas avoir bien plus qu'un chargement de mulet. Avant que Patrick ait pu réagir, Roland jeta une nouvelle fois un regard par-dessus le rebord déchiqueté de la pyramide. Il plaça les mains en coupe autour de sa bouche et se mit à hurler.
« C'est encore une fois, Sai. On est toujours là. Mais tu auras peut-être plus de chance au prochain coup. »
Un silence, puis un nouveau cri de démence.
« Comment oses-tu rire de moi ? Comment oses-tu ?»
Un autre sifflement suivit. Roland attrapa Patrick et le couvrit de son corps, à l'abri de la pyramide, mais sans s'y adosser. Il craignait que les vibrations au moment de l'impact du vif d'argent ne provoquent des commotions ou ne leur réduisent les viscères en bouillie. Seulement, cette fois-ci, le vif d'argent ne percuta pas la pyramide. Il vola près de leur tête et monta en flèche au-dessus de la route. Roland fit rouler Patrick sur le dos. Des yeux, il repéra l'éclat doré et attendit le moment exact où il amorçait la boucle qui le ramènerait vers ses cibles. Il le fit exploser en plein vol comme une assiette d'argile. Il y eut un éclair aveuglant, puis l'engin disparut.
« Bon sang, toujours là !»
mugit Roland, veillant à insuffler juste la bonne dose de moquerie dans sa voix. Ce qui n'était pas chose aisée quand on hurlait à tue-tête. Un nouveau cri lui répondit. Roland s'étonnait que le roi rouge ne se soit pas fait éclater le cerveau en deux à force de pousser des cris aussi perçants. Il rechargea la chambre qu'il avait vidée. Il avait l'intention de garder un pistolet plein aussi longtemps que possible, et cette fois-ci, le sifflement fut double. Patrick gémit, roula sur le ventre et plongea le visage dans l'herbe criblée de cailloux, se couvrant la tête de ses mains. Roland s'adossa à la pyramide de pierre et d'acier, le long canon de son six coups posé sur sa cuisse, dans l'attente et détendu. En même temps, il dirigea toute sa volonté vers un seul objet. Ses yeux se mirent à larmoyer en réaction à ce sifflement aigu qui approchait, mais il ne pouvait se permettre de les laisser s'embuer. S'il avait besoin de cette vue exceptionnelle qui avait fait sa renommée en son temps, c'était maintenant. Ses yeux bleus n'avaient rien perdu de leur précision lorsque les vifs d'argent passèrent en flèche au-dessus de la route. Cette fois-ci, l'un d'eux obliqua à gauche, tandis que l'autre bifurquait à droite. Ils eurent quelques manœuvres aléatoires, oscillant follement dans un sens puis dans l'autre. Ce qui ne fit aucune différence. Roland attendait, assis les jambes allongées et ses vieilles bottes éculées réunies en V, son cœur battant lentement et régulièrement, l'œil empli de toute la clarté et de toutes les couleurs du monde. S'il avait pu voir plus clairement en ce jour ultime, il se dit qu'il aurait vu le vent. Puis il leva son arme en un éclair pour faire exploser les deux vifs d'argent en plein vol et rechargea une nouvelle fois les chambres vides, tandis que les images rémanentes battaient devant ses yeux en rythme avec son cœur. Il s'appuya contre le coin de la pyramide, s'empara des jumelles, les cala sur un éperon rocheux de taille adaptée et chercha son ennemi du regard. Le roi cramoisi lui sauta presque aux yeux, et pour une fois dans sa vie, Roland vit exactement ce qu'il s'attendait à voir. Un vieillard doté d'un énorme nez, crochu et cireux, des lèvres rouges écloses dans la neige d'une barbe luxuriante. Une chevelure blanche et vaporeuse qui tombait dans le dos du roi, presque jusqu'à ses fesses maigres. Il tendait son visage rosi en direction des pèlerins. Il portait une robe d'un rouge éclatant, décorée çà et là d'éclairs et de symboles kabbalistiques. À Susanna, Eddie et Jack, il aurait rappelé le Père Noël. Aux yeux de Roland, il avait exactement l'air de ce qu'il était. L'enfer incarné.
« Comme tu es lent !»
s'écria le pistolero sur un ton de consternation amusée.
« Et c'est avec trois. Peut-être que trois à la fois te sieront. »
Observé par les jumelles, c'était comme regarder à travers un sablier magique qu'on aurait incliné. Le pistolero voyait le gros roi rouge sauter en l'air, agiter les mains près de son visage de manière presque comique. Roland crut voir un cageot au pied de la silhouette en robe, mais il ne put en être certain. Les volutes de fer forgé entre le sol du balcon et la rambarde les lui cachaient.
« Sans doute son stock de munitions, » pensa le pistolero. « Ça doit être son stock de munitions. Combien peut-il en avoir dans un cageot de cette taille? 20? 50? Peu importait.
À moins que le roi rouge se mît à les lancer par 12, Roland n'avait aucune inquiétude quant à sa capacité d'abattre en plein vol tout ce que le vieux démon lui enverrait. Après tout, c'était pour ça qu'il était fait. Malheureusement, le roi cramoisi le savait aussi bien que Roland lui-même. La chose, perché sur son balcon, lança un nouveau hurlement strident et épouvantable. Patrick enfonça ses doigts sales dans ses oreilles sales et fit mine de refaire le plein de munitions. Cependant, il s'interrompit en plein mouvement. Roland le vit s'approcher de la rambarde du balcon et fixer le pistolero droit dans les yeux. Son regard furieux était rouge et brûlant. Roland abaissa immédiatement les jumelles, de crainte de se laisser fasciner. L'appel du roi dériva jusqu'à lui.
« Attends un peu et médite sur ce que tu aurais à gagner, Roland. Songe combien elle est proche. » Écoute, écoute le chant de ta chérie. »
Puis il se tut. Plus de sifflements, plus de gémissements, plus de vives d'argent lancées à pleine vitesse. Roland n'entendit plus que le murmure du vent. Et ce que le roi voulait qu'il entende. L'appel de la tour.
Viens, Roland,
chantaient les voix. Elles provenaient des roses de Cancanoré, elles provenaient des rayons au-dessus d'eux en train de se reconstituer, et surtout, elles provenaient de la tour elle-même, celle-là même qu'il avait cherchée toute sa vie et qui était à présent à sa portée, pour qu'il s'envoie finalement refuser l'accès au tout dernier moment. S'il allait jusqu'à elle, il se ferait tuer à découvert. Pourtant, cet appel était comme un hameçon dans son esprit qui l'attirait. Le roi cramoisi savait qu'il ferait son travail avec un peu de patience. Et à mesure que le temps passait, Roland en fut lui aussi convaincu. Car les voix qu'il appelait n'étaient pas constantes. À leur niveau moyen, ils pouvaient leur résister, mais lorsque l'après-midi tendit vers le soir, l'appel gagna en intensité. Il comprit progressivement et avec un sentiment croissant d'horreur pourquoi dans ses rêves et dans ses visions il s'était toujours vu arriver à la tour au coucher du soleil, alors que la lumière qui éclairait l'ouest semblait refléter le champ de roses, transformant le monde entier en une mare de sang de laquelle saillait un phare unique, d'un noir aussi profond que la nuit, se détachant sur l'horizon en flammes. Il s'était vu y arriver au crépuscule car c'était le moment où l'appel intense de la tour finirait par avoir raison de sa volonté. Il irait. Aucune puissance dans l'univers ne serait en mesure de l'en empêcher.
« Viens, viens,
devint,
viens, viens,
puis
« Viens, viens !» Sa tête en était douloureuse. Sa tête douloureuse en voulait plus. Il se retrouva à genoux encore et encore, se forçant à chaque fois à se rasseoir, le dos appuyé à la pyramide.
Patrick l'observait avec un effroi croissant. Il était partiellement ou complètement immunisé contre l'appel, ce que Roland comprenait, mais il mesurait ce qui était en train de se produire. 5. Ils étaient coincés depuis environ une heure, évalua Roland, lorsque le roi tenta un nouvel envoi de vives d'argent. Cette fois-ci, les deux engins piquèrent de part et d'autre de la pyramide et firent presque immédiatement demi-tour, fonçant sur lui avec un parfait ensemble à environ 5 mètres l'un de l'autre. Roland cueillit le premier par la droite, cassa le poignet vers la gauche et fit exploser l'autre sur fond de ciel. L'explosion du second vif d'argent lui balaya le visage d'un souffle chaud. Mais au moins n'y eut-il pas d'éclat. Lorsqu'ils explosaient, les vifs d'argent explosaient complètement, semblait-il.
« Essaie encore !» cria-t-il.
Il avait à présent la gorge sèche et râpeuse. Mais il savait que ces mots portaient. L'air de cet endroit était fait pour ce genre de communication. Et il savait que chacune de ces paroles était une dague dont la lame venait piquer la chair du vieux fou. Mais il avait lui aussi ses problèmes. L'appel de la tour devenait de plus en plus insoutenable.
« Viens, pistolero !»
l'exhorta la voix enjôleuse du démon.
« Peut-être te laisserai-je approcher après tout. Nous pourrions au moins palabrer sur le sujet, ne crois-tu pas ?»
Et à sa grande horreur, Roland crut percevoir des accents de sincérité dans cette voix.
« Oui, se dit-il avec amertume, et on boira un petit café, peut-être même qu'on se fera un petit casse-croûte. »
Il sortit maladroitement la montre de sa poche et l'ouvrit d'une chiquenaude. Les aiguilles couraient vivement à l'envers, il s'appuya contre la pyramide et ferma les yeux, mais c'était pire. L'appel de la tour.
« Viens, Roland, pistolero. Comme à Comala, la fin du voyage est là. »
avait gagné en puissance, plus insistant que jamais. Il rouvrit les yeux et les leva vers le ciel impitoyable et les nuages qui défilaient à la queue leu-leu jusqu'à la tour, au bout du champ de roses. Et la torture continua. 6. Il tint bon une heure de plus, tandis que s'allongeaient les ombres des buissons et des roses qui poussaient près de la pyramide, espérant sans y croire qu'il lui arriverait quelque chose, qu'il aurait une idée brillante qui le sauverait, lui évitant de remettre sa vie et son destin entre les mains du jeune garçon talentueux, mais peu vif à ses côtés. Mais lorsque le soleil se mit à glisser derrière la ligne d'horizon à l'ouest, et qu'au-dessus d'eux le bleu vira au noir, il sut qu'il n'y avait plus rien. Les aiguilles de sa montre gousset tournaient à l'envers de plus en plus vite. Bientôt, elle ferait l'hélice. Et quand ce serait le cas, il irait. Vive d'argent ou pas. Et qu'est-ce que ce vieux fou pouvait encore lui réserver? Il irait. Il irait en courant, en zigzagant, il ramperait au sol s'il le fallait, et peu importe ce qu'il ferait, il savait qu'il pourrait s'estimer heureux de réussir à parcourir la moitié de la distance qui le séparait de la tour sombre avant de se faire trucider. Il mourrait au milieu des roses.
« Patrick, »
dit-il d'une voix enrouée. Patrick leva vers lui un regard chargé d'un intense désespoir. Roland baissa les yeux sur les mains du garçon, sales, galeuses, mais à leur façon porteuses d'un talent aussi extraordinaire que le sien, et céda. Il lui apparut clairement qu'il n'avait tenu aussi longtemps que par orgueil. Il avait voulu tuer le roi cramoisi, pas seulement l'envoyer dans le néant. Et bien sûr, Il n'avait aucune garantie que Patrick pourrait réserver au roi le sort de la plaie de Susanna. Mais l'appel de la tour serait bientôt trop fort pour qu'il puisse résister plus longtemps, et il n'avait plus d'autre choix désormais.
« Change de place avec moi, Patrick. »
Patrick obéit, en enjambant Roland avec précaution. Il se trouvait à présent au bord de la pyramide, côté route.
« Regarde par les lunettes, porte loin. Calé dans ce trou, là, oui, comme ça. Et regarde. »
Patrick s'exécuta à nouveau, pendant ce qui parut à Roland une éternité. Pendant ce temps, la voix de la tour chantait, carillonnait, enjôleuse. Patrick finit par se tourner vers le pistolero.
« Maintenant, prends ton bloc, Patrick. Dessine cet homme là-bas. »
Non pas qu'il fût vraiment un homme, mais il en avait l'apparence. Mais Patrick se contenta tout d'abord d'examiner attentivement Roland en se mordant la lèvre. Puis il finit par saisir la tête du pistolero entre ses mains et à l'approcher de la sienne jusqu'à ce qu'ils fussent front contre front.
« Très difficile, »
murmura une voix au plus profond de l'esprit de Roland. Ce n'était pas du tout une voix de garçon, mais d'homme, d'homme puissant.
Il n'est pas complètement là. Il sombroie. Il se caméléonne.
Où Roland avait-il déjà entendu ces mots?
Pas le moment d'y réfléchir.
Tu veux dire que tu ne peux pas?
Demanda le pistolero en injectant, avec un effort, une pointe d'incrédulité et de déception dans sa voix.
Que toi, tu ne peux pas?
Que Patrick ne peut pas?
Que l'artiste ne peut pas.
Le regard de Patrick changea. L'espace d'une seconde, Roland vit passer une expression qui deviendrait constante s'il devait atteindre l'âge adulte. Et le tableau dans le bureau de Seyre confirmait qu'il deviendrait un homme, du moins dans un temps donné, dans un des mondes. Qu'il deviendrait assez vieux, du moins pour peindre ce qu'il avait vu ce jour-là. Cette expression serait un jour de la morgue, s'il devait devenir un vieil homme doué d'un peu de sagesse pour accompagner son talent. Pour l'instant, ce n'était que de l'arrogance. C'était le regard d'un gamin qui sait qu'il dégaine plus vite que la flamme bleue, qu'il est le meilleur et qui ne se soucie pas d'apprendre autre chose. Roland reconnaissait ce regard, car ne l'avait-il pas vu, renvoyé par des centaines de miroirs et d'étendue d'eau immobile lorsqu'il avait l'âge de Patrick Danville ?
« Je le peux, »
reprit la voix dans le cerveau de Roland.
« Je dis seulement que ce ne sera pas facile. J'aurai besoin de la gomme. »
Roland secoua immédiatement la tête. Dans sa poche, ses doigts se refermèrent autour de ce qui restait de caoutchouc rose et le serrèrent fort.
« Non. Tu dois dessiner à froid, Patrick. Que chaque ligne soit la bonne dès le premier coup. C'est plus tard que tu effaceras. »
Pendant une seconde, l'arrogance dans son regard vacilla, mais rien qu'une seconde. Et lorsqu'elle reparut, ce fut accompagné d'une émotion que le pistolero apprécia grandement et qui le mit quelque peu à l'aise aussi. C'était l'étincelle d'une vive excitation. L'étincelle qu'on retrouve dans l'œil de ceux qui possèdent un don, quand, après des années passées à le gaspiller, ils se trouvent enfin défiés de mettre en œuvre leurs facultés, d'en éprouver les limites. Peut-être même de les dépasser. Patrick se cala de nouveau derrière les jumelles qu'il avait laissées de travers dans leur encoche. Il scruta de nouveau la tour, tandis que les voix ressassaient leurs couplets impérieux dans la tête de Roland. Et enfin, il bascula sur le côté, prit son bloc et s'attaqua au dessin le plus important de toute sa vie. 7. Ce fut un travail de lenteur, comparé à la méthode habituelle de Patrick. des traits rapides qui constituaient en quelques minutes à peine un portrait vivant et fascinant. Rolante dut se retenir à maintes reprises de hurler au garçon « Dépêche-toi, au nom de tous les dieux, dépêche-toi, ne vois-tu pas que je suis au supplice ?» Mais Patrick ne voyait rien et ne s'en serait pas soucié, l'eût-il vu. Il était totalement absorbé dans son travail, transporté par cette avidité inconsciente, ne s'interrompant que pour jeter de nouveau un long regard dans les jumelles, afin de mieux s'imprégner de son modèle en robe rouge. Parfois, il penchait le crayon pour affiner les ombres, puis il frottait du pouce pour estomper le trait. D'autres fois, il roulait les yeux en arrière, ne montrant à Rolante qu'un voile blanc cireux. On aurait dit qu'il restituait une version du roi rouge qui rayonnait dans son cerveau. Et qu'est-ce qui prouvait à Rolante que tel n'était pas le cas ?
Je me moque du pourquoi et du comment, qu'il termine avant que je devienne fou et parte en courant vers ce que le vieux roi rouge appelle très justement « ma chérie ».
Une demi-heure longue de 3 jours pleins s'écoula ainsi. Le roi cramoisi l'appela de nouveau, plus enjôleur que jamais, l'invitant à venir palabrer au pied de la tour. « Peut-être, ajouta-t-il, si Rolante le libérait de sa prison sur ce balcon, il pourrait enterrer la hache de guerre et monter ensemble au sommet dans ce même esprit de franche cordialité. » Ce n'était pas impossible, après tout. Une grosse averse réunissait d'insolites compagnons de couche dans les auberges. Rolante n'avait-il jamais entendu ce dicton ? Le pistolero le connaissait bien, ce dicton. Il savait aussi que l'offre du roi rouge était aussi fausse que sa requête précédente, sauf qu'il l'avait cette fois-ci habillée en queue de pie et cravate. Et Rolante entendit l'inquiétude ramper dans la voix du vieux monstre. Il ne gaspilla pas son énergie à répondre. Comprenant que ses câlineries avaient échoué, le roi cramoisi envoya un autre vif d'argent. Celui-ci s'envola si au-dessus de la pyramide qu'il ne fut qu'une étincelle, puis il plongea droit sur eux avec un hurlement de bombe en pleine chute. Rolante lui régla son compte d'une seule balle et rechargea, piochant dans ses abondantes munitions. Pour être honnête, il aurait voulu que le roi lui envoie d'autres de ses grenades volantes, car elles occupaient momentanément son esprit et éclipsaient le redoutable appel de la tour.
« Elle m'attend, » se dit-il avec désarroi. « C'est ce qui rend toute résistance aussi difficile, je pense. C'est moi qu'elle appelle, moi en particulier. Pas Rolante à proprement parler, mais la lignée d'Arthur l'aîné tout entière. Et de cette lignée, je suis le seul qui reste. »